but go home. I know you wanna do anything but go home. No, just say you wanna do anything but go home. Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre...
La 89.5, la 89.4, excusez-moi, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, nous recevons, je dis nous, puisque c'est une coproduction entre la philanthropie de l'ouvrier charpentier, même si Philippe n'est pas là, et les chroniques syndicales que j'anime, comme vous le savez probablement. Donc nous recevons Valérie Chansigaud, qui est déjà venue dans nos studios, mais elle se présentera dans un instant, autour d'un livre tout à fait conséquent, « Histoire du végétarisme » aux éditions Busset-Chastel. Donc on va parler pendant une heure et demie de cette question du végétarisme et puis des choses qui tournent autour, comme par exemple le véganisme ou le flexitarisme. Ouais. Radio Libertaire, 89.4. Ah, il y a un tunnel là. Bon, bah, allons-y, je sais pas pourquoi nous... Nous sommes tunneliers ce matin, mais pourquoi pas. Donc, Valérie, peut-être nous dire un petit peu d'où tu parles, quoi, et pourquoi tu as réalisé un ouvrage sur le végétarisme après tant d'autres.
Alors, je suis historienne. Je m'intéresse, en fait, à l'histoire de la relation entre l'espèce humaine et son environnement, notamment naturel. Et j'ai beaucoup travaillé sur le rapport à la nature, le mot nature étant, une valise très très large, très très grande, dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Et je m'intéresse en particulier dans cette relation à la nature, à la construction des inégalités sociales, à la construction des rapports de domination, qu'est-ce que ça signifie exactement, et bien évidemment le rapport à l'animal, quel qu'il soit, sauvage, domestique, est l'une des facettes de cette relation. Et après avoir fait un livre, tu m'avais invité pour en parler, un livre sur l'histoire de la domestication animale, c'était assez logique de m'intéresser au refus de consommer de la viande, parce que en fait il manquait en français une histoire du végétarisme, et quand j'ai commencé à m'attaquer à ce sujet, j'ai sous-estimé un petit peu l'ampleur de ce thème, parce qu'il y a énormément de sources, il y a énormément d'éléments.
Souvent en langue anglaise, quand on regarde ta bibliographie.
Souvent en anglais, mais par exemple, il y a toute une filiation du végétarisme russe, au moins jusqu'à la prise de pouvoir des bolcheviks, là, qui met un terme en fait aux forces traditionnelles végétarienne en Russie, mais c'est vraiment une histoire extrêmement riche et variée.
Et donc, voilà pourquoi tu as travaillé là-dessus. Peut-être qu'on peut commencer pour éclairer un peu les auditeurs, de définir ce qu'est le végétarisme, si c'est possible, parce que à te lire, c'est quand même extrêmement diffus, confus et peut-être multiple.
Oui, d'ailleurs, la multiplication des termes qui existe autour du végétarisme montre bien en fait ces difficultés de définition parce que il y a végétarien, il y a végétalien, il y a vegan depuis quelques années.
Il y avait même légumiste autrefois.
Oui, avant que le terme végétarien se diffuse sous l'influence des Britanniques, en France on parlait de légumiste, ce qui est une jolie expression. Et même avant l'apparition de ce terme, bah en fait on n'avait pas de mot pour désigner. Lorsqu'on parlait de quelqu'un qui s'abstenait de manger des animaux, ben, il n'y avait pas d'adjectif qu'on pouvait lui coller dessus pour le définir. Il faut attendre le début du 19e siècle pour qu'on voit apparaître un vocabulaire sous... Et ça traduit bien, en fait, l'émergence d'un mouvement de plus en plus présent. Et donc, c'est très difficile à définir, même aujourd'hui, parce qu'on voit bien, par exemple, que lorsque des scientifiques font des études d'épidémiologie sur les conséquences sur la santé des régimes alimentaires, que ça soit végétarien ou, au contraire, le fait de consommer de la viande, forcément, il serait tentant de prendre la population de végétariens pour essayer de faire des comparaisons avec la population générale. Et là, on se rend compte que c'est très très difficile d'avoir un panel cohérent et homogène, parce que les gens qui se définissent eux-mêmes comme végétariens, lorsqu'on les interroge après plus méticuleusement sur le détail du régime, on se rend compte qu'ils font souvent ils consomment quand même un peu de viande, parfois de façon très très régulière, c'est-à-dire il y a des gens qui mangent quasiment de la viande à chaque repas et qui se définissent eux-mêmes même comme végétarien, ce qui peut paraître très, très assez contradictoire. Mais parce que on se rend compte que vraiment c'est quasiment indéfinissable. La seule chose qu'on peut définir pour le végétarisme, c'est que c'est l'abstinence volontaire de la consommation d'animaux. Pourquoi volontaire ? Parce que dans l'histoire, il y a un très long passé d'un végétarisme obligatoire du fait des inégalités sociales. Ça, c'est une caractéristique des sociétés agricoles, quelles qu'elles soient. C'est vrai en Europe comme en Asie, par exemple. Les sociétés agricoles étaient dominées par un effondrement de la consommation d'animaux par rapport aux sociétés précédentes, de chasseurs-cueilleurs, et surtout une consommation extrêmement inégalitaire, parce que seuls les riches consomment l'essentiel de la viande disponible. Par exemple, en Europe, les populations agricoles consomment en moyenne, il y a des fortes variations régionales, mais en moyenne, on estime que les populations agricoles consommaient 2 à 3 kilos de viande par an, ce qui est très peu. L'essentiel de la viande, sauvage ou domestique d'ailleurs, était consommé par
les aristocrates et la grande bourgeoisie.
Voilà. Ouais. En Chine, il y a le même phénomène, puisque les gouverneurs de province, qui est quand même le sommet de la hiérarchie bureaucratique chinoise antique, étaient dénommés par un mot qui signifiait les mangeurs de viande, ce qui signifie bien leur statut à travers la viande. Et en fait, la viande a toujours été un marqueur d'inégalité sociale, et y compris d'ailleurs dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Par exemple, les sociétés de chasseurs-cueilleurs où la viande joue le plus grand rôle dans les rapports sociaux, c'est aussi des sociétés qui sont le plus... où les femmes ont le statut le plus dégradé. C'est vraiment très intéressant de voir à quel point la viande est encore une fois un marqueur des inégalités sociales. Ça permet de construire les inégalités sociales, y compris entre hommes et femmes.
Voilà, donc, chose extrêmement compliquée à définir. On va revenir peut-être sur un peu ces choses-là, mais la question de la souffrance animale, voire du végétarisme, est extrêmement ancienne, puisque quand on lit ton ouvrage, on s'aperçoit que on en parle rarement à Radio Libertaire, mais on va le faire pour une fois dans la Bible. Et puis, bien sûr, les philosophes antiques et grecs en particulier s'intéressent déjà à cette question-là.
Oui, les premières formes de végétarisme qu'on peut repérer dans l'histoire, c'est dans la vallée de l'Indus, c'est dans la Grèce antique, et c'est très souvent d'ailleurs en réaction au sacrifice d'animaux. On sous-estime très souvent la place prise par le sacrifice des animaux, qui est souvent la seule façon d'obtenir de la viande. C'est-à-dire que on n'a pas du tout la structure telle comme aujourd'hui, où des animaux sont emmenés dans un abattoir, tués et distribués. Là, on considère que la consommation de viande, et ça c'est une caractéristique de tous les peuples humains qu'on peut observer, c'est que la viande pose toujours problème. La viande est solidement encadrée par un contrôle social, que ça soit les tabous, que ça soit les sacrifices ordonneux. Et en fait, l'accès à la viande n'est jamais aussi facile que l'accès aux végétaux. 70% par exemple des tabous alimentaires concernent les animaux, les végétaux c'est moins de 10%, ça doit être 7 ou 8%. C'est toujours quelque chose qui, en fait, pose problème, la consommation de viande. Et les premiers végétariens, les plus anciens végétariens qu'on observe, c'est des gens qui réagissent aux sacrifices d'animaux, qui décident de refuser les sacrifices d'animaux, et ce faisant, ils refusent de consommer de la viande.
Ah oui. Et ça remonte à quand, ça, à peu près ?
Alors, je me souviens plus des dates exactes, mais ça remonte à quelques milliers d'années pour l'Indus, la vallée de l'Indus. Et ce qu'il faut voir, c'est que au début, c'est un végétarisme qui est tout théorique et qui n'a très peu à voir avec le respect des animaux. C'est très souvent une façon de rompre avec les pratiques religieuses qui entourent les personnes concernées, mais il ne s'agit pas de valoriser les animaux au point de refuser le fait qu'ils puissent souffrir. Ça va être théorisé dans un second temps, après. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un nouveau type de pratique religieuse dans lequel, effectivement, la viande est abolie.
Ouais. Je peux te poser une question que tu n'abordes pas dans le livre, mais qui me vient comme ça en t'écoutant. C'est refus de sacrifice des animaux, mais il n'y a pas forcément refus de la peine de mort, voire de la guerre.
Ah oui.
On aurait pu penser qu'il y a un lien aussi très direct entre les deux.
Pas à cette époque. Même si très souvent, on va le voir d'ailleurs dans la Bible, il y a il y a un refus de la souffrance animale en raison que cette souffrance animale légitime la souffrance faite aux êtres humains. Il y a toujours eu une façon de penser, c'est très sensible en Occident, une façon de penser que la cruauté faite aux bêtes est en fait la même chose que la cruauté faite aux hommes. Il n'y a pas deux cruautés différentes, il y a une sorte de continuité. Et lorsqu'on va refuser le meurtre, parce que c'est très souvent le terme qui est employé dans les textes les plus anciens, le meurtre des animaux, c'est une façon de refuser des meurtres tout court. Tout comme d'ailleurs les sacrifices d'animaux avaient été vus par certains spécialistes comme le refus des sacrifices humains. Mmh. En fait, on porte la violence des êtres humains aux animaux. Mais là, dans une autre façon de lire les choses, on considère que l'habitude de la violence à l'égard d'êtres sensibles que sont les bêtes, en fait, conduit inévitablement à la violence envers les animaux. Mais tu as raison, il faut attendre assez longtemps, quasiment au 19e siècle, pour qu'on voit apparaître des gens qui sont à la fois pacifistes et végétariens.
On était dans la vallée de l'Indus là, à l'instant. On peut peut-être évoquer, avant une pause musicale, les anciens Grecs.
Oui, tout à fait. La figure la plus importante dans le monde grec est Pythagore. Alors, il faut savoir que Pythagore n'a laissé aucun texte. on pense qu'il a existé, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui, parce que...
Il a laissé un théorème, au moins.
Il y a des gens qui, des siècles après sa mort, ont écrit un théorème qui a été attribué à Pythagore. Il faut voir que Pythagore est une figure absolument centrale, parce qu'on lui attribue non seulement une œuvre mathématique, mais également... Pour beaucoup, c'est le premier des philosophes. Donc, c'est quand même pas rien dans l'histoire. Et il aurait été végétarien. Encore une fois, on ne connaît de sa vie que les témoignages laissés quelques siècles après sa mort.
Oui,
donc,
ils sont quand même discutables.
Oui, et puis, le Pythagore qui est décrit est proprement divin. Il est capable d'être dans plusieurs lieux en même temps. Il est capable de commander aux orages pour éviter qu'il ne pleuve. Il va, par exemple, on raconte qu'il croise un jour un ours et il convainc l'ours d'abandonner son comportement de prédateur pour se comporter autrement. Donc c'est quasiment un dieu. Dans ces écrits-là. Et effectivement, l'humain que Pythagore a peut-être été, s'il a effectivement existé, on ne sait strictement rien.
D'accord. Et donc, ce serait lui qui, s'il a existé, a été repéré comme le premier...
Oui, il fait partie d'un courant religieux qui est considéré un peu à tort comme sans doute le plus ancien courant religieux végétarien. Pourquoi à tort? Parce qu'il y a des travaux qui montrent que les premiers pythagoriciens faisaient des sacrifices d'animaux. Donc, c'est un peu compliqué à démêler. Mais quelques siècles après, ça commence à être bien structuré. L'idée que Pythagore est végétarien, qu'il refuse pour éviter de répandre du sang, de commettre de la violence et de respecter des animaux, ça c'est quelque chose qui devient ancré, qu'il le sera de plus en plus par d'autres auteurs grecs et latins, comme Ovide, Plutarque, qui vont écrire des textes extrêmement puissants en faveur du végétarisme.
Et qu'il le pratiquait réellement ou on ne sait pas?
Alors, pour Plutarque, je n'ai aucun élément pour savoir. Il y a certains textes de Plutarque qui indiqueraient que lorsqu'il défend le végétarisme, c'est une attitude purement de philosophe qui prend en fait un sujet... à savoir la violence faite aux animaux, leur capacité de souffrir, etc., et qui en délivre un texte philosophique, mais qui n'a aucun contact, qui est purement théorique, qui n'a aucun rapport avec la réalité. À l'époque romaine, on a quelques témoignages de gens qui réellement tentent d'être végétariens parce qu'ils ont livré des témoignages, des difficultés qu'ils avaient à suivre un régime végétarien dans un monde qui ne l'était pas.
Radio Libertaire 89.4. Ça marche pas? Bon, bah alors. Rends-moi le. Donc, on est désolé, mais on a des petits problèmes techniques ce matin. Là, Frédéric essaie de nous solutionner ces choses, mais nous n'y parvenons pas. On a fait donc très rapidement une tentative de définition. On a évoqué les sources les plus anciennes qui mettent le végétarisme en débat, pour le moins, quoi, même si les pratiques sont encore à discuter. On peut peut-être passer un petit peu plus tard dans le temps, parce qu'il y a un chapitre que tu évoques, c'est autour de Descartes et les animaux-machines qui légitimaient, pour le coup, toutes les violences faites aux animaux.
Oui. Descartes est très souvent présenté comme une sorte de symbole de la relation dans le monde occidental à la bête, à l'animal, qui consiste en fait à instrumentaliser l'animal, considérer que l'animal est une machine, qui n'est pas capable, comme une machine, de souffrir. Et que si cette machine montre des signes de douleur, c'est simplement parce qu'elle a été programmée comme ça, comme un automate. Et on a insisté, on insiste toujours, encore aujourd'hui, très 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 lourdement sur une sorte d'héritage cartésien qui ferait que tout l'Occident serait dominé par ce type de pensée qui met à distance et la nature et la bête, qui légitime la domination, etc. En fait, quand on regarde attentivement ce qu'a écrit Descartes, le paysage est assez différent. Alors, comment on le sait? C'est parce qu'il a laissé un ensemble de lettres qu'il échange avec un philosophe britannique, Henry Moore, parce que Henry Moore est un philosophe qui est enthousiaste par rapport aux écrits de Descartes. Il se présente comme le fan de base, en quelque sorte, de Descartes. Il est vraiment admiratif devant la pensée, la profondeur de Descartes, sauf sur un point qui coince complètement, c'est l'idée d'animal-machine.
Je lui dis, c'est un peu étonnant qu'un philosophe de cette trempe-là puisse penser que les animaux sont des machines, quand même.
Oui, mais en fait, dans cet échange de lettres, c'est pour ça que cet échange est vraiment magnifique d'un point de vue philosophique, parce qu'il montre comment une pensée peut se construire. Descartes revient à se justifier et expliquer sa démarche. Ce qui ressort, c'est que Descartes écrit, il est habituel de penser, à son époque donc, que l'animal est capable de souffrance, est capable de sensibilité, et que les animaux ont une âme. Alors, que les idées des animaux ont une âme, ça c'est un vieux débat de l'Église, des églises chrétiennes. La plupart des pères de l'Église admettent que les bêtes ont une âme, simplement cette âme n'est pas éternelle, c'est-à-dire elle s'éteint, elle disparaît à la mort du corps de l'animal. Le fait, donc, Descartes insiste vraiment dessus en disant qu'effectivement, il est coutume à son époque de penser que les animaux sont intelligents, ils sont capables de sensibilité et de souffrance. Mais ça pose un problème théologique. Parce que si l'âme des animaux n'est pas éternelle, ça veut dire que Dieu est responsable d'une immense injustice en faisant souffrir des créatures sensibles sans que ces créatures, l'âme de ces créatures, puisse espérer un repos éternel. Il y a une sorte d'injustice religieuse criante, il l'écrit comme ça, et d'ailleurs Henry Moore dit, je comprends bien vos démarches théologiques, et pour résoudre ce conflit théologique, plutôt que d'admettre que les animaux sont capables de s'ouvrir et donc qu'il faut changer d'attitude à leur égard, Descartes a l'idée lumineuse de considérer tout simplement que la souffrance n'existe pas. Ce qui est d'ailleurs un vieux principe de tous les dominateurs qui consiste à nier chez les dominés leur capacité de souffrir ou même d'exister. C'est pour ça qu'il pense que effectivement l'animal n'est pas capable de souffrance, c'est juste une machine. Et à la fin d'une lettre, toujours adressée à ce philosophe britannique mort, il va conclure comme ça, nous pouvons continuer à manger tranquillement. Ce qui est une sorte d'aveu devant le trouble quand même ressenti par le fait de consommer des animaux. Et en fait, il y a plein de conclusions à tirer de cet échange épistolaire entre ces deux philosophes. Déjà que ce n'est pas une caractéristique de l'Europe de croire que les animaux sont des machines. C'est pas vrai, c'est une idée de Descartes. Et d'autre part, elle est très peu reprise. En fait, il y a très peu de philosophes qui vont, au final, se revendiquer de Descartes. Il y en a beaucoup plus qui s'opposent à Descartes, considérant que c'est totalement ridicule. La plupart des observateurs des animaux, des naturalistes, des philosophes, des savants de toutes sortes, des poètes, considèrent qu'il suffit de regarder un animal 5 minutes pour comprendre qu'un animal est intelligent et qu'il fait des choix. Et c'est ça qui est très curieux, c'est qu'à notre époque, on va instrumentaliser une œuvre comme celle de Descartes pour justifier en fait une attitude ou une caractéristique culturelle qui n'est pas une caractéristique culturelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les pensées sont extrêmement diverses et variées en Europe, qu'il n'y a pas une façon de penser qui domine, c'est pas vrai.
Oui. Et peut-être que Descartes est passé à la postérité et pas tous ceux qui s'opposaient à cette théorie.
Tout à fait. En même temps, les opposants qui ont été, encore une fois, infiniment plus nombreux que les partisans de Descartes, ont parfois eu des notoriétés plus grandes. Alors, pourquoi Descartes a une telle notoriété et pas les autres ? Ça, c'est une question qu'on pourrait débattre.
Mmh. Voilà, donc ça, c'était Descartes. Et après, toujours pour avancer un petit peu dans la théorie et puis dans les faits, c'est le XVIIIe siècle qui va peut-être remettre les choses un peu en question. On commence à penser droit de l'homme, et du même coup, on pense droit des animaux.
C'est le XVIIIe siècle et se caractérise en Europe, je précise parce que c'est pas la même histoire en Chine, en Inde et dans d'autres territoires. Mais en Europe, il y a une caractéristique, c'est ce qu'on définit grosso modo sous le terme des Lumières, c'est l'idée qu'une société peut se réguler en choisissant elle-même les modalités de sa régulation. Donc d'établir des droits, d'établir un fondement juridique et législatif permettant d'ordonner l'organisation sociale. Et de plus, cette organisation sociale doit tendre à favoriser la paix entre les nations, mais aussi entre les individus. Pas forcément être juste, mais d'être le moins désordonné possible. Il s'agit vraiment d'appliquer un ordre.
Et un ordre humain, et non plus un ordre divin.
Oui, un ordre qu'on aurait choisi. Parfois qu'on aurait choisi sous l'impulsion, en respectant les commandements divins. Mmh. Et effectivement, c'est le siècle où on voit émerger cette notion des droits de l'homme. Simultanément, il y a d'autres droits qui se discutent. Le droit des esclaves, parce que droit de l'homme, ça s'applique à qui ? Par exemple, quand on voit la fondation des États-Unis d'Amérique au XVIIIe siècle, c'est effectivement à l'avant-garde de cette société libérale. Mais en même temps, les droits qui sont accordés concernent une petite partie de la population, à savoir des hommes blancs, riches, et pas tous les autres. Ouais. Les femmes, les pauvres, les noirs...
Et les Indiens sont
totalement exclus de ça. Donc, cette notion de droit de l'homme, c'est pas forcément le droit de tous les hommes. En parallèle à cette recherche de la définition, la meilleure définition ou fondation des droits de l'homme, il y a effectivement des débats au sujet du droit des esclaves, du droit des femmes, par exemple, et bien sûr du droit des animaux, même si celui-ci est toujours très minoritaire, mais curieusement, dans les textes qui réfléchissent, qui débattent sur cette question de comment définir les droits de l'homme, se pose immanquablement la question du droit des animaux. Parce que si on définit les êtres humains en fonction de leur capacité sensible, leur capacité à souffrir, et donc il faut abolir les mauvais traitements parce que ça fait souffrir inutilement et de façon cruelle des êtres vivants. Alors pourquoi ne pas se poser la question pour les animaux ? On voit bien quand même qu'il y a une continuité qui est assez naturelle et que beaucoup de penseurs vont emprunter.
Voilà. Il y a quelques grands noms qui sont végétariens ou très sensibles à ces questions de souffrance animale dans ce XVIIIe siècle ?
Alors, souffrance animale au XVIIIe, ce qui va surtout être le plus marquant, c'est le refus de la cruauté faite aux animaux. Ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est le fait de faire des traitements inutile dans le but simplement de satisfaire sa propension à voir souffrir des êtres vivants. Ça va être rejeté. Pour autant, la plupart des penseurs ne passent pas le cap, ne vont pas plus loin en disant il faut arrêter de consommer des animaux. Il y en a certains. Il y a notamment William Godwin.
Qui est considéré comme le père de l'anarchisme. Par certains,
oui,
au moins.
Oui, par certains. Il était peu anarchiste, mais il était contre l'État.
Voilà, sa critique de l'État quand même tout à fait radicale.
Ah, c'est le premier à avoir critiqué l'État, parce que suivant l'idée de Locke, que, comme quoi l'État avait été fondé, enfin d'ailleurs la tyrannie du prince avait été fondée pour assurer la paix entre les individus, William Godwin affirme que l'État, très vite, finit par être non pas la cause de la paix, mais la cause de la guerre. C'est lui qui provoque la guerre et les désordres. Et qu'il faut donc abolir l'État pour instaurer une société pacifique. William Godwin était sensible à la question animale. Il va embaucher d'ailleurs pour sa famille un cuisinier végétarien. C'est la première mention qu'on voit qu'il existe des cuisiniers spécialisés dans la cuisine végétarienne à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières. William Godwin est un grand penseur des Lumières britanniques qui s'oppose à Malthus, par exemple, qui va se battre toute sa vie contre Malthus et ses idées. Son épouse, c'est Mary Wollstonecraft, qui est considérée comme l'une des premières, si ce n'est pas la première féministe de l'histoire. Et leur fille est Mary Shelley.
L'épouse du poète Shelley,
qui a écrit Frankenstein.
Non pas Shelley, mais...
Mary Shelley. Frankenstein, qui la créature du docteur Frankenstein est végétarienne d'ailleurs. Son seul rêve, c'est d'arriver à un endroit où il pourra manger juste des végétaux. Enfin, c'est assez intéressant de le voir. Et le mari de Mary Shelley est important, Percy Shelley, que tu as cité, parce que c'est un poète mort assez prématurément, un grand poète britannique romantique, mais également l'un des grands fondateurs, parce que c'est lui qui va écrire un petit texte en faveur du végétarisme et également un autre texte en faveur de la non-violence. Et ça, c'est deux textes qui vont fortement influencer toute une série de penseurs après lui, comme l'américain Thoreau, qui va être à la fois végétarien et non-violent à cause des écrits de Percy Shelley.
Radio Libertaire 89.4.
Madame, un conseil, monsieur, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaisse les patates pour se fouiller garbate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la. En reçu ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Supprimons la bomba, supprimons la, et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. À la pomme qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Des tomates, mon amour.
Radio Libertaire 89.4 MHz, vous écoutiez le morceau de musique « Mange des tomates, mon amour » de Jacques Harry. Le débat va reprendre et l'émission.
Voilà, donc en compagnie de Valérie Chansigaud, autour de, vous l'avez compris, une histoire du végétarisme, là, aux éditions Buchet-Chastel. On a évoqué pas mal de choses, mais dans cette grande histoire du végétarisme, les anarchistes ont été présents dès le début. Alors, Goldwyn, un petit peu à part, mais quand on connaît un peu l'histoire de ce mouvement, et particulièrement en Europe, on s'aperçoit que les anarchistes ont souvent posé cette question-là, voire ont pratiqué, pour certains d'entre eux, le végétarisme militant.
Alors ça, c'est sensible dès le début du mouvement anarchiste dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec des grandes figures végétariennes et militantes de la cause végétarienne, comme Louise Michel, Élisée Reclus. Tous les deux, d'ailleurs, vont être les têtes d'affiche d'un grand congrès organisé en Angleterre, avec plein d'autres intervenants. Et c'est assez intéressant de voir que, parce que dans leurs deux cas, on a des témoignages, on sait, dans le cas d'Élisée Reclus, il assiste en fait à l'égorgement d'un cochon dans une ferme, il en est traumatisé quand il était enfant, il va écrire beaucoup dessus. Pour autant, tous les anarchistes ne sont pas végétariens, loin de là, mais ça reste une sorte de thème qui va ressurgir de façon extrêmement régulière pour deux raisons, et qui d'ailleurs caractérise l'anarchisme par rapport à d'autres mouvements socialistes, notamment le socialisme autoritaire de type marxiste, qui va être totalement détaché de cette question-là. On connaît un texte d'Engels où il attaque en fait les mouvements de défense des animaux, par exemple, comme étant un mouvement petit bourgeois. Dans le cas d'Élisée Reclus ou de Louise Michel, il y a vraiment une lecture qui consiste à dire que les mauvais traitements, la violence et la cruauté faite aux animaux n'est pas distinguable de la cruauté faite aux êtres humains, la cruauté faite aux pauvres et aux sans-grades des sociétés, qu'en fait c'est une sorte d'ordre social brutal et violent qui s'applique et qu'on peut pas dénoncer l'un sans dénoncer l'autre. Il y a vraiment une sorte de continuité. En réalité, beaucoup d'anarchistes qui vont être végétariens vont l'être pour des raisons économiques, parce que au 19e siècle, manger de la viande, c'est très coûteux. C'est non seulement très coûteux, mais la viande la moins chère qu'on peut trouver est souvent de très mauvaise qualité. Soit ce sont des bêtes malades qui sont abattues, découpées et distribuées auprès des plus pauvres, soit il y a des falsifications qui fait que c'est des viandes faisandées ou qui sont en fait remises dans les circuits de distribution alors qu'elles devraient pas l'être. Et c'est clair que si on veut un régime équilibré à cette époque, un régime végétal est bien mieux venu. D'ailleurs, les premiers restaurants qui ouvrent d'abord en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Russie, bien avant la France. D'ailleurs, la France est toujours un peu marginale par rapport à ce mouvement-là. Les restaurants végétariens vont être des restaurants très souvent très économiques. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs qui vont tester ces végétariens écrivent, sans même être militants pour par ailleurs, hein, mais écrivent que c'est une nourriture remarquablement de bonne qualité, bonne tout court, et pas chère. Ce qui, aujourd'hui, n'est plus vraiment le cas, parce qu'il est moins coûteux, probablement, de se nourrir avec de la viande que se nourrir avec des... en s'abstenant de consommer des animaux.
Et donc, dans ces exemples tirés des anarchistes, d'une part, dans les réunions publiques anarchistes, encore aujourd'hui, il y a toujours eu la double possibilité, soit de consommer de manière omnivore, soit de consommer de manière légumiste, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Mais il y a aussi, dans des endroits un peu particuliers, comme la colonie d'Anglomont, par exemple, un choix qui est fait, alors à la fois économique et peut-être pas qu'économique, de ne pas consommer de viande.
Oui, oui.
Rappeler peut-être un petit mot sur cette colonie d'Anglomont, là.
Ah bah, les les colonies, parce que c'est un mouvement qui touche pas que la France, on va le voir aussi dans d'autres mouvements aux États-Unis, etc. Il y a beaucoup de colonies, de communautés qui vont se créer dans un but de se retirer en quelque sorte de la société. C'est-à-dire, on condamne l'organisation sociale et l'une façon de répondre, c'est de se préserver.
Se mettre en dehors.
De façon plus ou moins autarcique. L'autarcie totale est rarement atteinte parce qu'elle est, c'est un objectif assez compliqué. Mais c'est fou le nombre de communautés qui sont créées, pas d'ailleurs que par des anarchistes, parce qu'il y a des communautés extrêmement similaires créées par divers mouvements religieux, laïques, c'est des milliers de communautés qui sont créées partout dans les pays occidentaux et qui cherchent toujours à se retirer, à se désengager. Mmh. Oui, le terme est parfaitement juste du monde tel qu'il est. Et l'une de ces caractéristiques de ces communautés, pas de toutes bien sûr, mais de beaucoup, c'est de refuser de consommer des animaux.
Mmh. Toujours pour les anarchistes, c'est très intéressant dans ce que tu as écrit, même si c'est un peu anecdotique, c'est qu'il semblerait, puisqu'il semblerait d'ailleurs, que ce soit deux anarchistes chinois qui ont monté la première usine en France de tofu.
Oui, c'est un anarchiste aussi chinois qui s'appelle, je vérifie, Li Shizeng, né en 1881 et mort en 1973, qui au début du XXe siècle va aller en Chine récupérer des capitaux, revenir en France et créer près de Colombes,
en région parisienne,
la première manufacture de transformation de soja en tofu. Il ne va employer que des jeunes Chinois qui viennent en France continuer leurs études et aussi, ça, en quelque sorte, améliorer leur anarchisme, parce que ce sont tous des militants anarchistes qui travaillent dans cette usine. Cette usine, créée en 1907, est importante parce que c'est non seulement la première entreprise d'importance qui va transformer, produire un aliment dédié strictement aux végétariens, mais il va écrire beaucoup sur la transformation du soja en tofu et sur diverses préparations qu'il va breveter. Anarchiste, mais quand même, il a un certain sens des affaires. Il va breveter énormément de préparations, de fromage végétal, de charcuterie végétale, d'alternatives en fait à la viande qu'il va essayer de préparer le plus proche possible des habitudes culinaires liées à la viande et au laitage, etc. Beaucoup d'autres entreprises qui vont être fondées dans les années qui suivent, parce que c'est tout un mouvement d'ensemble, il est le premier, quelque part l'initiateur, mais c'est pas le seul, vont s'inspirer de ses écrits, de ses brevets, pour faire la même chose ailleurs.
Mmh. Avec Goldwyn, on était à la marge du mouvement anarchiste, pour en terminer sur ce thème-là, un autre anarchiste à la marge, selon moi au moins, c'est Tolstoï.
Oui. Oui, oui. Alors,
Tolstoï, l'anarchisme chrétien, moi, ça m'a toujours un peu défrisé. Mais...
Il y a quelques contradictions dans le fait d'être dans une religion et aussi autoritaire et en même temps anarchiste. Oui, je sais, je vois bien. Tolstoï, c'est assez marrant parce que à l'origine, il n'était pas du tout végétarien et en faveur des animaux, parce que c'était un grand chasseur. Et c'est sa foi. Assez particulière, qui va le conduire à une sorte d'exigence un peu à la façon des... comment dire... de ces ordres religieux qui refusent la consommation de viande parce que c'est une forme de perpétuel jeûne, en fait. Ils appliquent un jeûne, mais c'est pas simplement qu'un jour, de temps en temps, tout le temps. Et là, c'est une façon de se purifier en ayant un comportement exemplaire par le refus de consommer des animaux. Or, Tolstoï va avoir une influence absolument considérable sur le végétarisme déjà en Russie. Il y a beaucoup plus de restaurants restaurant végétarien au moment de la Révolution dans les années 20, au début du 20e siècle, qu'en France, par exemple, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est intimement lié à ce mouvement tolstoïen qui est extrêmement vivace à cette époque et qui est très, très largement végétarien.
Radio Libertaire, 89.4.
Julie, la petite olive, rêvait de voyager, mais elle était captive d'un rameau d'olivier. Elle tannait ses copines à longueur de journée, avec les Philippines et Saint-Germain-des-Prés.
C'est bon, Julie, arrête de nous les briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un panier. On est né pour faire de l'huile d'olive. C'est comme ça, c'est la nature, et c'est très bon avec les endives.
Julie, la petite olive, l'entendait pas de cette oreille. Comme elle avait la verve vive, elle pria parti le soleil.
Vous, monsieur, vous tournez près de 24 heures par jour. Le monde, vous le connaissez, vous en avez déjà fait le tour. Moi, je suis prisonnière de cette grosse branche en bois. Dites-moi donc ce qui se passe sur terre. Oh oui, s'il vous plaît, racontez-moi.
C'est bon, Julie, arrête de les lui briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un saladier. On est né pour faire copine avec les endives. Le soleil, lui, s'en tape, il connaît rien, l'huile d'olive.
Mais l'astre du jour, par sa requête, fut ému et lui dit, rayonnant d'amour, je vais commencer au début. Au bout d'une dizaine de mois, il finissait le préambule, le Big Bang et tous ces trucs-là, la naissance des premières cellules. Et Julie l'écoutait, passionnée, attentive, ouvrant grand ses oreilles pour n'en point perdre un mot. Mais hélas, la vendange tardive des olives coupa leur entretien avec tout le rameau.
Cette fois, Julie, c'est terminé. Allez, monte dans le camion qui nous emmène chez Puget. Pour faire de l'huile d'olive. Maintenant tu fermes ta gueule et tu dis bonjour aux endives.
Mais Julie ignorait que le soleil, ce gros bavard de lumière, l'avait gavé pendant qu'il contait ses histoires. Et arrivé au pressoir, le propriétaire agricole eut besoin d'une chaise pour s'asseoir et s'écria:
oh, la bestiole! Prénom de nom, fit plus dieu, j'hallucinion. Par les baloches du cornu, j'ai dû abuser du litron. Cette olive, on dirait que j'ai la couille de Godzilla. Va m'en falloir des endives pour me contenter, ce bête-là.
Et Julie, que la joie inonde grâce au miracle de la nature. C'est à fait quatre tours du monde dans les salons de l'agriculture. Dans les salons de
Radio Libertaire 89.4, vous venez d'entendre, La Petite Olive de parler Wiggles, chronique syndicale, cela continue.
L'entropie de l'ouvrier charpentier, donc, qui ont invité Valérie Chansigaud autour de son histoire du végétarisme chez Buchet-Chastel. J'ai un peu de mal à le dire, ça. Donc, on a évoqué les anarchistes en lien avec ce courant légumiste et végétarien. Mais paradoxalement, des gens qui vont déclencher de très grandes violences contre les humains sont aussi, pour une part, végétariens, et je nomme très directement Hitler et Mussolini, quoi. Donc il y a là aussi un paradoxe terrible, quand même.
Oui, alors, un paradoxe qui est, somme toute, assez limité. Parce que, effectivement, la propagande utilise beaucoup l'idée que Hitler était végétarien. Mussolini est également mentionné. Dans les deux cas, c'est un végétarisme qui est pas du tout éthique. C'est un végétarisme hygiénique. Il s'agit de ces deux dictateurs qui ont des petits problèmes de santé et qui se trouvent mieux en suivant, prescrit par des médecins, un régime essentiellement végétarien. Il faut bien voir que c'est quelque chose de commun à l'époque, d'avoir des problèmes de santé qu'on résout par l'élimination de la viande de son alimentation. C'est quelque chose de beaucoup plus commun qu'aujourd'hui, par exemple. Ce qui est intéressant dans le cas d'Hitler, et ça c'est un point important parce que il y a beaucoup de mauvaises interprétations qui circulent, Hitler était végétarien, le régime hitlérien ne l'était pas du tout. En fait, le régime nazi avait comme obsession de donner une nourriture équilibrée à la population allemande en temps de guerre, parce que c'était considéré comme une sorte de désordre social durant la guerre de 14-18. Il y avait un problème d'alimentation et les désordres sociaux qui apparaissent à la fin de la guerre de 14-18 en Allemagne.
Donc le mouvement spartakiste, la révolution sociale, les choses comme ça, ouais.
Aurait été causé, en fait, par une mauvaise alimentation. Donc les cadres du régime nazi ont très très peur de ça. Ils veulent, en fait, contrôler l'alimentation parce que, de toute façon, c'est le rêve de tout système totalitaire nazi, fasciste ou stalinien, c'est toujours la même chose, de contrôler la totalité des facettes de la vie humaine, dont l'alimentation, en végétalisant cette alimentation, pas en faisant une alimentation végétarienne, attention c'est totalement différent, puisque Hitler est végétarien, mais le mouvement végétarien est interdit en Allemagne. La société végétarienne est dissoute, ses biens sont saisis et ses dirigeants sont incarcérés. Donc c'est pas du tout une société tolérante envers le végétarisme. Au contraire, ils vont faire une répression sauvage et brutale contre le mouvement végétarien qui existait avant.
Et pourquoi ?
Parce que on observe la même chose dans le même temps, par exemple, dans l'Espagne franquiste. Il va y avoir un vaste mouvement qui va réprimer le mouvement végétarien, mais au même titre que le mouvement naturiste. Tout ce qui, en fait, change, ne respecte pas le conformisme et le conservatisme social est réprimé, quelle que soit la forme que cela prend. Et le refuser de manger des animaux est l'une de ces formes-là. C'est pas la seule, mais ça fait partie de tout ce qui est interdit. Les listes sont très longues des mouvements interdits. Et donc, on a une contradiction entre un régime qui met en avant, à des fins de propagande, le fait que Hitler était végétarien. Vous rendez compte, cet homme qui abat un travail considérable, il mange même pas de viande. C'est un surhomme, vraiment, c'est un dieu. Et dans le même temps, de réprimer le mouvement végétarien. Et tous les mouvements totalitaires vont faire la même chose. C'est-à-dire, on observe la même chose dans l'Espagne franquiste, comme je l'ai dit, mais également en Russie. En Russie, il y a un important mouvement végétarien, notamment sous l'influence de Tolstoï, et tout cela va être également interdit, condamné et réprimé.
Et pourquoi ? Parce que ce que tu me disais aussi, quand on a préparé l'émission, c'est que d'une certaine manière, végétaliser la nourriture des êtres humains, c'est aussi une façon de mieux réguler l'alimentation dans les périodes de guerre et les périodes de guerre civile en Union soviétique.
C'est une façon de, comment dire, la végétalisation était un objectif, mais pas le végétarisme pour autant. C'est-à-dire, il s'agissait de diminuer, dans le cas de l'Allemagne, c'est extrêmement bien structuré parce que le régime nazi installe, par exemple, en Roumanie, des cultures extrêmement extensives de soja pour avoir des protéines végétales de bonne qualité. Le but, c'est vraiment de résoudre cette équation, en fait, nourrir correctement la population, donc en diminuant la quantité de viande, parce que c'est plus simple en temps de guerre de nourrir une population avec des végétaux qu'avec des animaux. Mais pour autant, il n'y a aucune dimension éthique, il n'y a aucune dimension du respect des animaux, ni de près, ni de loin. C'est pas du tout un végétarisme. C'est vraiment une façon de contrôler l'alimentation, également sans doute d'un point de vue symbolique. C'est pour ça que le végétarisme est interdit, parce que l'alimentation ne doit pas relever de l'initiative individuelle, de la liberté des individus, mais bien émaner du contrôle étatique. C'est ouais. Vraiment l'idée que on est capable de tout contrôler. La vie, la sexualité, l'alimentation des êtres humains.
Ouais. Et que l'État, c'est ce qui est bon pour toi, pour moi, et éventuellement pour tout le monde. Quoi.
Exactement.
Ce qui est étonnant, alors, c'est aussi du côté des bolcheviks. Quoi. On comprend assez mal le pourquoi de cette chasse aux végétariens dans après les années 1920.
C'est assez logique parce que il faut bien voir que le mouvement communiste autoritaire réprime très violemment tous ceux qui ne sont comment dire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et bien sûr, le mouvement anarchiste est très fortement réprimé. Il est, et bien sûr, les Tolstoïens qui sont à la fois spiritualistes et anarchisants, vraiment, sont des victimes toutes désignées de la répression. Parce que, encore une fois, c'est comme dans le régime hitlérien, c'est le refus de considérer que les individus peuvent s'organiser en fonction de leurs propres valeurs, de leurs propres choix. C'est pas possible. Il y a un modèle. Ce modèle s'applique à tous les individus sans exception. Et ceux qui rechignent à rentrer dans ce modèle, ben, ils sont en fait éliminés.
Mais on aurait pu penser que dans une économie de pénurie comme l'a connue la Russie post-tsariste, il aurait été plus facile de nourrir la population en réduisant éventuellement la consommation de viande.
Oui, mais c'est alors quand on voit les grandes famines qu'il y a en Russie après la révolution, qui sont très 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 largement dues à l'organisation sociale. C'est pas une malédiction météorologique. C'est vraiment
d'autant quand la plus grande partie de cette pénurie c'est en Ukraine, et l'Ukraine c'est, on le sait encore aujourd'hui d'ailleurs, une terre à blé absolument riche, quoi.
Oui, oui, c'est vraiment un défaut d'organisation sociale, donc qu'ils ne soient pas capables de penser au fait qu'une alimentation plus végétale serait une alimentation plus équilibrée, c'est assez logique. Ils sont enivrés, enfin, il y a une sorte de spirale idéologique qui fait que la vision est de plus en plus théorique et de moins en moins pratique. Il s'agit d'appliquer au final le programme idéologique qu'ils ont défini.
Ouais.
Et c'est pour ça que le nazisme et le communisme autoritaire se rapprochent, parce qu'ils ont cette même foi dans la vérité absolue qu'ils détiennent et qu'il faut appliquer, y compris en répandant le sang.
Passe-moi les crudités, je te donnerai la bouteille. Inutile de compliquer, c'est si bon de pique-niquer. Oh, que c'est bon sur l'herbe tendre, de temps en temps d'aller s'étendre, s'alimenter et se détendre. Passe-moi les crustacés, je te donnerai la bouteille et la cuisse de poulet. C'est si bon de pique-niquer quand on est deux pour se comprendre et prendre le temps de s'entendre. En vérité, rien n'est plus tendre. Regarde dans les yeux. Passe-moi le cassoulet, je te donnerai la bouteille, le plus dur des œufs mollets. Je n'en fais qu'une bouchée, car avant nous sur cette terre, songe à tous ceux qui s'allongeaient et ne sont plus qu'ombre et poussière. Crois-moi, profitons-en. Passe-moi le compotier, je te donnerai des merveilles. Inutile de compliquer, c'est si bon de pique-niquer. C'est si bon de pique-niquer. C'est si bon de pique-niquer.
C'était Bourville sur Radio Libertaire avec le titre « Passe-moi les crudités », chronique syndicale continue.
Voilà donc avec Valérie Chansigaud autour de « Histoire du végétarisme » aux éditions Buchet-Chastel. On va évoquer deux thèmes là dans la période qui va arriver. qui sont des choses plus contemporaines. D'abord, le mouvement punk, particulièrement en Grande-Bretagne, a été très porteur de ce mouvement pour le végétarisme. Et puis, on en arrivera à des choses tout à fait contemporaines et très débattues aujourd'hui, qui est le véganisme, qui est une nouvelle forme, voire ultime, du végétarisme.
Le mouvement punk qui émerge dans les années 70, d'abord en Angleterre, puis très vite, ça va faire tache d'huile dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, va être en partie, je dis bien en partie, marqué très fortement par l'anarchisme. L'anarcho-punk est quelque chose qui existe et qui est assez important.
Qui est noded.
Oui, et qui est symbolisé par le groupe Crass, CRA2S, qui est un groupe d'artistes, un collectif d'artistes qui vivent dans une communauté. Ils ont une petite maison, ils sont très très fiers de cultiver leur jardin eux-mêmes et de se nourrir de leur jardin. Et de ce mouvement-là va naître, de ce moment-là va naître toute une série de groupes absolument extrêmement nombreux de mouvements punk en faveur du végétarisme. Et on sait qu'il y a par exemple des concerts punk tout début des années 80 où on distribuait à la fin du concert la liste des boucheries et des abattoirs à brûler dans le quartier. Il y a plus d'activistes de la cause animale en prison en Angleterre dans les années 80 que de militants de l'IRA. Mesurer l'ampleur, c'est vraiment absolument considérable. Et le mouvement punk, enfin une partie du mouvement punk, va être vraiment un élément moteur très important en Angleterre, puis aux États-Unis. Ils vont soutenir énormément l'organisation PETA, qui est une organisation de défense extrêmement active et assez radicale des animaux, en faveur d'un, on va dire, une sorte d'autre mode de vie. Et il va y avoir des groupes qui vont entièrement se dédier à cette question-là. Et ça va jouer un rôle important dans la diffusion, dans une culture beaucoup plus large et très jeune, de ces questions-là, auprès d'un public qui ne serait pas forcément directement en contact avec les militants habituels de la cause végétarienne.
Ouais. Mais en France, le mouvement punk a été moins marqué que le mouvement britannique sur cette question ?
A été moins marqué tout court, même si aujourd'hui on estime qu'il a été plus important que ce qu'on pouvait penser. Effectivement, toute la dimension politique du mouvement punk est nettement estompée en France, ça c'est vraiment très clair.
Voilà donc pour le dernier avatar de l'anarcho-punk végétarien. Et aujourd'hui, donc, dans le mouvement anarchiste et pas que, un autre courant a émergé ces dernières années, venu des États-Unis, c'est le véganisme. Alors, c'est quoi la différence entre des végétariens qui quelquefois consomment des laitages et ces véganes qui n'en consomment pas? Et est-ce que on peut considérer que, même si je sais que tu n'en es pas d'accord, que pour certains d'entre eux au moins, le véganisme devient une idéologie, voire une idéologie totalitaire?
Alors, le véganisme se distingue du végétarisme par le fait qu'il considère, comment dire, depuis le début du 19e siècle, le végétarisme qui s'installe en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe utilise très souvent des laitages et des œufs dans l'alimentation. Et le véganisme va être un peu plus radical que cela, en considérant qu'il faut refuser toute forme d'utilisation d'animaux, c'est-à-dire non seulement le lait, les œufs, ça va être la première grande rupture, mais également toute forme d'utilisation animale, que ça soit par exemple de la laine, du cuir,
du miel,
de la soie, de verre à soie, etc. Parce que ça participe à la souffrance et l'exploitation des animaux. La grande différence, c'est que au lieu de simplement diminuer la consommation d'animaux, ça refuse toute forme de consommation d'animaux et ça le revendique. D'où l'émergence de ce terme, c'est juste pour servir de marqueur. Il faut bien voir que c'est un mouvement minoritaire dans un mouvement minoritaire, c'est-à-dire c'est vraiment... En définitive, extrêmement peu de choses, même si on a l'impression qu'il est très présent, il est simplement très bruyant, et donc, de ce fait, on a l'impression qu'il occupe une grande place. Mais quand on regarde les effectifs, c'est quand même extrêmement faible. On est vraiment dans des très petites minorités.
Voilà, mais est-ce que ce mouvement est suffisamment conséquent en disant on refuse toute exploitation animale ? Et du même coup, on refuse toute exploitation de l'homme par l'homme ou de l'homme par la femme, quoi, ou de la femme par l'homme.
Alors,
de ce point de vue-là, c'est pas si clair, quoi.
Oui, il n'y a pas toujours. Alors, d'une façon générale, en fait, ça, c'est si on regarde l'histoire du mouvement ou des mouvements en faveur du végétarisme depuis le début du 19e siècle, on se rend compte que la question sociale est relativement minorée. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle existe quand même assez peu. Elle existe chez certains penseurs. Par exemple, Percy Shelley va souligner la question au début du 19e du refus de faire souffrir des animaux, mais aussi la question sociale, la question des inégalités sociales. Mais ça reste quand même très très minoritaire. Déjà parce que l'essentiel des végétariens le sont pour des raisons sanitaires. Il s'agit d'être en bonne santé en refusant de consommer des animaux, mais c'est pas du tout des questions éthiques. Donc si c'est pas des questions éthiques, a fortiori c'est pas des questions sociales. Et il est frappant de voir à quel point cette question sociale, sauf peut-être chez les féministes, enfin chez certaines féministes qui étaient également végétariennes dès la moitié du 19e siècle, a été très peu présente en définitive. On va retrouver ce thème chez effectivement les anarchistes végétariens parce que naturellement ils sont sensibles à la question sociale, mais en dehors de ça, il y a pas beaucoup de d'écho. Dans les années 60, au moment où où il y a un renouveau de la question végétarienne, ça s'accompagne, mais là aussi de façon assez marginale, à un renouveau de la question sociale. Si on fait une sorte de bilan, que ça soit dans le véganisme ou ailleurs, la question sociale est quand même relativement minoritaire par rapport à la question animale. Aujourd'hui, on a l'impression d'ailleurs que si on est végétarien, c'est bien parce qu'on se soucie des animaux d'abord et avant tout. En réalité, comme je disais, c'est pas le cas. Pendant très longtemps, ça a été d'abord se soucier de sa santé, bien avant de se soucier des animaux pour eux-mêmes. On est face à une démarche qui a été, pour la plupart des militants de la cause végétarienne, une démarche plutôt individuelle, pas individualiste, mais individuelle, qui fait que c'est d'abord de soi-même dont se soucie. Mmh. Et il y a une sorte d'incapacité à penser à la question de façon globale. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'un monde débarrassé, effectivement, de toute forme de domination, y compris à l'égard des bêtes.
Ouais. Et c'est curieux que cette association se fasse qu'à la marge, quand même. Ça pourrait paraître logique, quoi. D'une
oui.
certaine manière, et on ne pousse pas la logique jusqu'au bout, quoi.
Oui, mais encore une fois, parce que il y a sans doute... Alors, outre cette recherche d'une nourriture saine pour le corps, d'être en bonne santé, etc. Vraiment une recherche très très individuelle, très égotiste. Il y a aussi une difficulté de penser les questions sociales de façon globale. Qu'est-ce que c'est que réellement refuser les formes de domination? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelle société on veut établir derrière? C'est des questions compliquées, en fait. Si on n'a pas un certain armement personnel en matière idéologique, ça finit par être juste des thèmes assez vagues, assez évanescents, en fait. Établir la justice sociale, oui, mais comment pour que... avec quel mode d'organisation sociale, etc. C'est assez logique, en fait, que le mouvement végétarien, quel qu'il soit, y compris le mouvement végan, soit aussi peu armé pour cela.
confiture, ça divine, ça coule, coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du bonheur. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Faudrait contrôler sa tartine, la tenir droite exactement. On la met en bouche, elle fait. Ça coule impeccablement. Et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe, quand on s'écrase entre les doigts, ça riposte les doigts. Côté collant, ça va de soi, on tente de passer les portes. On en met plein les vêtements, plus on respire, plus on avance, plus on frotte et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'on a qui préfère manger de la crème de mort. Ça colle au pain, c'est sans crème, c'est plus bonheur, mais ça tient bon. On fait l'école, puis c'est bien. On retourne, on prend l'escalier, on va plus loin vers l'étagère. On fait tourner autour du pot, les eaux fraîches à la brutale. Sous la curtine coule une bombe, la confiture coche à peine, les deux clandestines mortes. Puis un jour on est bien en place, on mène la vie à château. Dans les avions, dans les passes, on vous porte sur un plateau. La confiture coule une bombe.
Radio Libertaire 89.4, c'était Les Frères Jacques en public à Lausanne 1982. Chronique syndicale se continue.
Avec Philotropie de l'ouvrier charpentier, autour de cette histoire du végétarisme qu'a réalisé Valérie Chansigaud. Voilà, on va terminer toujours dans les choses un peu contemporaines, mais qui renvoient pour le coup à l'économie. Il y a un grand marché qui aujourd'hui est en train de se développer autour du véganisme ou du végétarisme, voire les deux, avec des grands industriels qui vont avoir des pratiques de marché d'une part, et qui, pour satisfaire ces populations-là, réinventent des viandes végétales, des goûts de légumes un peu particuliers, enfin toutes ces choses un peu compliquées qui sont en train de se jouer autour de ce végétarisme qui intéresse autant le capital que d'autres secteurs marchands.
Il faut comprendre que le marché de la viande est un marché absolument considérable qui brasse des milliers de milliards de dollars par an. Enfin, je veux dire, c'est vraiment absolument vertigineux. Donc, imaginez
Donc, il y a toute une partie des populations du tiers-monde, par exemple, de ce qu'on appelle le tiers-monde, qui accède aussi à la consommation de viande. On le voit en Chine, on le voit en Inde, on le voit...
Alors, ça, c'est quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire que la consommation d'animaux sur Terre augmente de façon constante, ne montre aucune faiblesse. En fait, il y a deux phénomènes, si on veut parler de ça. À un niveau global, au niveau mondial, la consommation d'animaux est sans cesse croissante de façon extrêmement importante, ce qui pose d'ailleurs toute une série de problèmes en termes d'impact écologique, que ça soit émissions de gaz à effet de serre, destruction de la biodiversité, transformation des terres, accession aux terres agricoles, etc., etc. À côté de ça, et la place prise dans cette expansion agricole par les animaux, il y a un autre phénomène qui est assez différent, c'est dans les pays riches, où on voit une baisse de la consommation des animaux par les classes les plus, par les classes supérieures.
Contrairement à ce que tu disais au début, où effectivement exactement. C'était les classes supérieures qui consommaient de la viande.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les riches des pays riches consomment moins d'animaux que les pauvres des pays riches. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même vraiment un bouleversement social majeur. Autrement dit...
Mais les riches, c'est pour leur santé aussi.
Ah, pour les riches, c'est avant tout pour leur santé. Ce qu'il faut voir, c'est que l'entreprise qui peut capter ne serait-ce qu'un 0,5% du marché de la viande s'assure un marché absolument vertigineux. Autrement dit, les grandes entreprises ont rapidement compris qu'il y avait un petit marché, ce qu'on appelle un marché de niche, à exploiter en diffusant dans les grands circuits de distribution des alternatives à la viande. On voit par exemple une marque comme Herta diffuser des alternatives à la viande qui ressemblent vraiment aux autres produits Herta. Autrement dit, des entreprises qui, par le passé, diffusaient des produits animaux vont diffuser des alternatives à la viande tout en maintenant leur gamme de produits animaux. On voit bien que c'est une stratégie commerciale pure visant à conquérir un tout petit marché en essayant de parce que c'est un marché qui est pas considérable mais qui est rentable, c'est un marché de niche. Le problème de ces substituts de viande, ces plats tout faits qui ressemblent beaucoup aux plats tout faits qu'on rencontre par ailleurs, qui appartiennent à la catégorie des junk food, vraiment de la mauvaise nourriture parce que ultra transformée et très peu saine, ben en fait cette nourriture végétale est également ultra transformée et très peu saine. C'est aussi de la junk food végétale, mais c'est quand même de la junk food. Quelqu'un disait, un médecin disait, faisait remarquer que manger des chips, par exemple, toute la journée, serait un régime végétarien. Mais c'est pas pour autant que ça serait un régime équilibré. Et tout le problème est là, c'est comment, pour beaucoup de personnes qui seraient sensibles à la question animale, c'est comment diminuer la consommation de viande tout en maintenant une nourriture suffisamment riche et équilibrée. Et c'est pas un problème relativement simple parce que c'est rompre avec des habitudes, avec le poids des traditions, le poids du milieu qui peut fortement influencer les repas de famille. Si on sert un repas de famille subitement que des plats végétariens, ça risque d'être une guerre civile extrêmement sanglante avant la fin du repas. Et donc on voit bien à quel point c'est extrêmement extrêmement difficile. Ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation végétarienne a deux options. Soit elle limite la viande en faisant du fromage végétal, du lard végétal, du jambon végétal, des steaks végétaux, soit elle essaye d'innover totalement.
Oui, pour être dans la rupture, quoi.
De faire une rupture. Alors, en s'inspirant parfois, et ça évite d'innover trop, de la nourriture qui existe déjà, par exemple en Asie, où il y a déjà certaines traditions végétariennes. Mais ça reste extrêmement compliqué, et on voit à quel point l'être humain, en fait, fonctionne par conservatisme, c'est des questions de tradition, alors qu'elles soient inventées hier, peu importe, les traditions, c'est rarement des choses qui ont plus d'un siècle. Mais ça, c'est vraiment un problème, et beaucoup de personnes, de personnes qui ont été végétariennes à une époque, qui ont arrêté de l'être, évoquent ce poids, en fait, du conformisme ambiant, et à quel point il est difficile d'y échapper. Et en fait, ces grandes entreprises qui vendent de la junk food végétale ont bien compris qu'une façon d'accéder à ce micro-marché était de reproduire à l'identique ce qu'ils connaissaient, ce que les consommateurs connaissaient par ailleurs.
Ouais, c'est tout à fait étonnant ça, que ce mouvement accepte de copier ce qu'ils critiquent pour ah, pour
ce sont ces grandes entreprises. Là, mais pour le coup, c'est pas les franchement, par exemple, Nestlé à travers sa gamme Herta ne va pas du tout solliciter le mouvement végan pour sa mouvement végan pour savoir ce qu'il doit faire. Hein. Ça, il y a absolument aucun lien entre les deux, ni de près ni de loin. Et à ma connaissance, les végans ne recommandent pas du tout ce type de nourriture. Là, il s'agit vraiment d'une initiative purement capitaliste pour essayer de conquérir, encore une fois, un micro-marché.
Ouais. Ce qu'on n'a pas évoqué, là, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, c'est aussi le fait que cette consommation de viande, elle démarre, alors particulièrement en Europe et en France, à partir des années 50, à la fin des pénuries liées à la guerre. Quoi. Et que c'était pour toute une partie de ces gens qui mangeaient très peu de viande avant la guerre, un accès alors, à ce que certains osent appeler la classe moyenne, qu'en fait, rien de moyen, mais qui était une autre façon de consommer, d'accéder à un niveau de vie supérieur à ce qu'ils avaient connu antérieurement. Quoi.
Il est impossible de parler de la consommation de viande tant en France que dans d'autres pays, parce qu'on observe ça ailleurs. J'avais suivi des études faites au Vietnam sur la consommation de viande de brousse, qui n'est pas une consommation de pauvreté. Alors, c'est pas les veaux, les pauvres qui vont dans la forêt à côté chercher du gibier. C'est une consommation plutôt réservée aux élites, dans des restaurants destinés aux élites, dans lesquels on va faire des grandes fêtes sociales. Par exemple, quelqu'un qui veut honorer ses chefs de son entreprise va les inviter au restaurant du coin manger de la viande de brousse. C'est vraiment lié à la réussite sociale, la consommation d'animaux. C'est pas du tout lié, encore une fois, et c'est assez logique, parce que ça a été le cas depuis quasiment toujours, et c'est, comment dire, aujourd'hui, ce qu'on assiste avec ces élites qui vont consommer moins de viande, c'est une sorte de réécriture de ce qui appartient aux élites. Qu'est-ce qui marque, ce qui est marqueur des élites, et de façon tout à fait contradictoire, c'est une hyperconsommation, mais également l'éloge de l'idéal de la frugalité, du refus de consommer, par exemple, des animaux pour des raisons d'élite ou environnementales. Et ça, il n'est pas possible de savoir est-ce que ça va se diffuser dans le reste de la société au point où les pauvres de demain auront envie de faire comme les riches d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas prévoir.
Ouais. On voit bien quand même dans tous ces mouvements-là qu'aujourd'hui la malbouffe, alors qu'elle soit végétarienne ou pas, est... touche les moins riches, voire les plus pauvres, quoi.
Oui, pour diverses raisons. Par exemple, il y a pas mal d'études qui montrent que aller dans un fast-food, par exemple, c'est pas, c'est une façon de marquer une certaine forme de, alors je dirais pas de réussite sociale, parce que quand on est pauvre, c'est pas forcément ça, mais de marquer quand même qu'on est capable d'avoir sa place dans la société en ayant un semblant de consommation, en fait.
On s'inscrit dans l'histoire de son temps, quoi.
Oui, par exemple, il y avait des études qui montraient qu'aux États-Unis, dans certains ghettos américains, le fast-food était le seul endroit propre et relativement non dangereux où on pouvait manger. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que on est face à des phénomènes qui dépassent, dès qu'on parle de l'alimentation, très largement le cadre purement nutritif de l'alimentation. On mange pas tant pour se nourrir que pour avoir des relations sociales, pour s'inscrire dans la relation à autrui. Et l'alimentation a toujours servi à ça, c'est-à-dire à construire son identité et l'identité des autres. Et par exemple, construire l'identité de son groupe ethnique, religieux, mais également à l'intérieur de son groupe, de définir par exemple la différence entre les pauvres et les riches, entre les hommes et les femmes. Ça va être notamment structuré, organisé via la nourriture. La nourriture a toujours été ça, et les animaux ont surtout beaucoup été ça depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant parce qu'on voit à tel point que la viande ne peut pas être balayée d'un revers de main comme ça. C'est-à-dire l'idéal d'une humanité végétarienne, c'est on en est très 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 loin, notamment parce que on ne réfléchit pas assez à ce que représente concrètement le fait de consommer de la viande.
Oui, sachant que c'est une consommation qui a, je sais pas, 200 000 ans, 300 000 ans, voire davantage encore, quoi. Donc c'est ancré à la fois dans les cultures et peut-être dans les gènes.
Alors dans les gènes, ça, je serais plus méfiante.
Mais c'est une image, quoi.
Si tu regardes, alors ça peut être intéressant pour terminer l'émission sur une perspective sur le long terme, mais si tu visites les grottes préhistoriques ornées d'Europe, tu te rends compte que c'est essentiellement des représentations de gros animaux. Il y a quasiment que des gros mammifères, quasiment. Chevaux, bisons, aurochs... Il y a très très peu d'oiseaux, quelques-uns, mais pas beaucoup, des poissons encore plus rarement, et des insectes, il n'y en a pas, et des végétaux, il n'y en a pas du tout. Autrement dit, ce que l'on montre à cette époque, c'est pas l'alimentation habituelle de l'homme de Cro-Magnon, de l'homme préhistorique, mais c'est la facette la plus valorisée socialement, probablement, de l'alimentation. Ça veut dire qu'il y avait déjà des préjugés culturels à l'œuvre dans l'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette époque, la préhistoire, coïncide avec une vague d'extinction massive d'espèces de grande taille. 70 genres d'animaux de plus de 40 kilos disparaissent en Amérique du Sud à l'arrivée de l'être humain. Autrement dit, l'être humain est une espèce très très particulière parce que c'est pas un grand prédateur, c'est un hyper prédateur qui consomme le plus d'espèces animales de tout le règne animal. Autrement dit, encore une fois, la viande dans l'histoire humaine, dans la psychosociologie humaine, occupe une place qui n'a rien à voir avec ses qualités alimentaires. C'est autre chose, beaucoup plus symbolique, dont il est question.
Merci à toi, Valérie, d'être venue. On va laisser la place aux chroniques syndicales tout de suite, et on envoie le générique. Et voilà.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes, et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever, tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeun entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américain, espion japonais, saboteur de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le. Ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas. Et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr. Et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discuter. Donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche,
t'auras pas d'histoire. Et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. La tronque est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité. Allez à l'écoute de l'émission Chronique syndicale du 6 janvier. Alors, retour de qui est animé donc par des militants de du syndicat CNT Solidarité Ouvrière de la région parisienne. Alors, retour de la table, tout d'abord à la technique, nous avons Lulu, comme d'habitude.
Salut. Merci,
qui fera la partie musicale d'ailleurs. Et autour de la table, nous avons Étienne, Amara et Abdoulaye. Nous sommes d'accord. Et moi-même, donc Raphaël, hein, du syndicat du Val-d'Oise. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission de Chronique syndicale, nous allons aborder la loi Darmanin, qui est totalement d'actualité, avec un certain nombre d'initiatives qui sont en cours, hein, qui ont déjà eu lieu, on y reviendra, et notamment la manifestation du 14 janvier. On fera un petit retour sur les luttes dans les différents chantiers qui ont eu lieu ces temps-ci, avec des résultats, somme toute, assez positifs, comme quoi l'action directe se révèle toujours efficace. Ensuite, j'aborderai un point sur la poste et les télécommunications, pour revenir un peu sur ce qu'est devenu cette entreprise qui, normalement, rappelons-le, a des missions de service public qui sont bafouées, voire enterrées depuis plusieurs années.